Bien, messieurs, dames, je vous propose de commencer. Bon, exceptionnellement, on n'a pas beaucoup de points à l'ordre du jour, donc ce sera assez rapide. Traditionnellement, il y a des sujets comme la DETR qui viennent à ce moment-là, mais la note sur la DETR, on l'a reçue ce matin. Donc, pour vous dire que voilà, c'était pas possible et qu'on enregistre effectivement des retards. Bon, ceci dit, nous allons passer à. Nous allons ouvrir la séance et passer à l'appel. Enzi Jean, absent. Jean est dans les urgences. Arnaud Michel, présent. Arnaud Odile, absente, pouvoir René Brouillard. Dolores Barouin, absente. Biaise Michel, absent. Baumler Laurent,
présent.
Présent. Brouillard René,
présent.
Présent. Carpentier Annie,
présente.
Présente. Kérol Evelyne,
présente.
Clos Marie, absente, pouvoir à Laurent Baumler. Coulet Dominique, absente. Excusez, tout à fait. Elle a même laissé un pouvoir, mais voilà. Il faut que la personne soit présente pour exercer le pouvoir. Cournil Jean-Jacques.
Présent.
Dumont Laurence.
Présent.
Fagot Edwige.
Présent.
Floury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie, absent, pouvoir à Laurence Dumont. Galzinski Nicolas.
Présent.
Grosbon Lisiane, absent, pouvoir à Jean-Jacques Cournil. L'ami Christophe, absent, pouvoir à Patrick Floury. Le Mercier Jean-Claude, absent, il est peut-être arrivé. Merlin Marie-France,
présente.
Présente. Panier Francis,
présent.
Rabé Philippe,
présent.
Raguido Cécile,
présent.
Ravoui Ferrugia,
présent.
Sauvage Patrick, absent. Stéphane Patrick,
présent.
Présent. Nous sommes donc 16 présents, le quorum est atteint. 16 et donc 5 pouvoirs, c'est ça, 5 pouvoirs, ce qui fait qu'il y a 21 voix au total. Ok, donc secrétaire de séance. Très bien. Laurent Baumler se propose comme secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Bon, les pouvoirs reçus, je rappelle qu'il y a des pouvoirs qui ont été reçus de Odile Arnoux à René Brouillard, Clos-Marie à Laurent Baumler, Fourdrin Stéphanie à Laurence Dumont, Grosbon Lisiane à Jean-Jacques Cournil et l'ami Christophe à Patrick Floury. L'ordre du jour. Alors, comme je vous l'ai dit, on a peu de points. Après l'élection du secrétaire de séance qui vient d'avoir lieu, il y aura l'approbation du procès-verbal des délibérations du dernier conseil municipal. Nous avons un point sur le poste de police, un point sur le protocole d'accord, un protocole d'accord avec RTE. On avait déjà évoqué ce sujet lors de la dernière réunion, mais on n'avait pas le protocole en chair et en os, si j'ose dire. Et donc là, on va le passer. Un point sur l'espace d'Agobert, la convention avec le collège. Voilà. Si vous voulez bien m'y autoriser, je passerai le point sur le poste de police en dernier, pour passer en premier le protocole d'accord avec RTE, la convention avec le collège sur l'espace d'Agobert, et j'ai oublié un dernier point à l'ordre du jour, mais il n'y en a pas, c'était les questions diverses. Très bien. Donc, personne ne voit d'obstacle à ce que je passe le point sur le poste de police en numéro 3. Derrière. Ok. Je propose donc de présenter d'abord le point avec RTE. L'approbation du procès verbal, pardon.
T'as pas envie de faire dans l'ordre ce soir.
Commencer dans l'ordre.
On sent qu'il n'y a pas courant.
Oui, ce soir, il ne veut pas faire dans l'ordre.
Bon. Donc, pour l'approbation du procès verbal de la dernière fois, y a-t-il des remarques ? Des observations, des questions ? Non. Bien, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? J'aurais dû commencer par là. Adopté à l'unanimité. Donc le deuxième point concerne le protocole RTE. Pendant que M. Leblanc met en place l'écran de projection, je rappelle juste que donc RTE, en fait, gère une ligne à haute tension, que sous cette ligne à haute tension, il y a un certain nombre de végétaux, que les végétaux peuvent présenter des risques d'accident. On en avait parlé l'autre jour. C'est essentiellement quelque chose qui se situe pas loin du collège. Donc, sur ce sujet, je vais laisser la parole à Madame Laurence Dumont, une fois que le plan de situation sera affiché.
Je peux faire un rappel. En fait, ce qui se passe, donc RTE nous a demandé l'autorisation pour l'abattage d'arbres et en contrepartie, en fait, nous permettent de financer les aménagements des zones qui ont été sélectionnées au niveau de ces abattages d'arbres. Donc là, vous voyez la simulation, le plan de localisation. Et en fait, on a quatre zones. La première zone, c'est la rouge. Donc en fait, il y avait quatre platanes, c'est surtout des platanes, qui étaient en limite de propriété et qui se trouvaient en bout d'un parking dédié au collège. Donc là, ces arbres-là vont être abattus. Après, il y avait les deux qui sont en jaune, entourés en jaune, qui se trouvent au niveau du feu du collège. Et voilà. Au niveau du clos Charlemagne, il y en avait un aussi là, c'était un marronnier. Et de l'autre côté, en fait, il y en avait deux qui sont juste en dessous de la ligne et du pylône, parce que le pylône, il se trouve, voilà, il se trouve là où il y a la petite croix de M. Leblanc, dans la souris. Donc, donc ils nous demandent d'autorisation et nous permettent de financer nos aménagements. Donc, ce qu'on a prévu comme aménagement, alors au niveau de la zone 1, donc il n'y aura pas du tout d'aménagement parce que entre la limite de propriété et le parking, il doit y avoir 1 mètre, 1,50 m. Donc, impossibilité de replanter des arbres pour qu'ils poussent droit, façon de parler. La zone 2, en fait, les deux arbres qui ont été abattus vont être remplacés par deux totems de 4 mètres, donc même dimension que ceux du collège, à l'effigie évidemment au de Verberie, et signalant en fait les deux salles, salle de sport et salle d'Agobert.
Totem de 4 mètres, c'est ce que
vous dites ? Totem de 4 mètres. Deux totems de 4 mètres qui vont être au niveau du feu, bon, à côté. Aujourd'hui, vous avez en fait un panneau d'affichage avec les affiches des événementiels qui se passent.
Oui.
Bon, voilà, ça sera là, à cet endroit-là. Donc, ils ne sont pas placés pour l'instant. Et après, au clos Charlemagne, donc pareil, là, on replanterait un arbre, donc plutôt un CP, donc qui part du sol, avec, je veux dire, de plus petite ampleur, en fait. À l'âge adulte, à peu près, c'est 5 mètres, grand maxi. Et après, au niveau Saint-Corneille, donc on planterait 6 arbres, 3 de chaque côté, là où il y a les points rouges, au même emplacement, mais 3, en triangle. Voilà. Toujours de petits développements pour que, dans quelques années, RTE n'ait pas à nous les couper, comme aujourd'hui, avec les platanes. Donc, si nous donnons l'autorisation à RTE d'abattre les arbres,
oui.
Nous, au niveau des aménagements, il y en a pour 8 304,24 €. Donc, il y a 4 000 € à peu près de totem. Il y a 2 700 € de plantation. Et après, en fait, le reste, les hiver. C'est parce qu'en fait, RTE n'a pas de compétences pour pouvoir faire ces aménagements et ces plantations. Donc, c'est nous qui réalisons toute la mise en place. Donc, c'est l'allocation de demi-bipel, voilà, terre végétale et autres, pour pouvoir placer tout ça. Donc, on leur a chiffré tout ça. Aujourd'hui, c'est un montant de 1300 euros.
C'est l'équipe de la commune qui...
C'est l'équipe de la commune, voilà. Et pareil, on a pris par rapport
Au temps passé.
Au temps passé, voilà, monsieur Leblanc a chiffré. Donc, on leur a tout donné. Avec les locations. Et c'est eux qui prennent en charge 100% les 1300. Donc, tous les devis qu'on leur a donnés, ils ont validé, en fait, les devis qui ont été transmis. Donc, voilà. Il y a 9 arbres abattus, il y en a 7 qui sont replantés.
7 replantés, puis l'essence était... On a parlé.
Alors, l'essence, en fait, voilà, des magnolias caduques. Donc, c'est qu'une floraison printanière. Aujourd'hui, les platanes et autres, il n'y a pas de floraison. Donc, on a voulu plutôt quelque chose qui fleurisse au printemps, parce qu'on n'a pas trop grand-chose dans le coin. C'est plutôt vert. Et dans l'arbre vert. Donc voilà. Et puis en hiver, on serait évidemment sans feuilles, mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement. Donc on reste dans le même cycle visuel, sauf au printemps, où il y aura plus un impact visuel. Voilà.
Y a-t-il des questions ?
Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que, en fait, le panneau d'affichage a été bousculé. Donc, une assurance va le prendre en compte. Et en fait, le panneau d'affichage, on va le remplacer par, puisque l'assurance va régler, par quelque chose qui sera évidemment cohérent avec les totems. Donc, dans tout l'espace, on aurait là quelque chose de cohérent. Pour mémoire, je vous rappelle que toute cette zone-là, en particulier la zone qui est située sur la gauche, au niveau du collège, qui était en fait propriété de la communauté de communes de la Basse-Autonne, depuis le 1er janvier, c'est nous qui en avons la responsabilité. Voilà.
Et même le terre-plein
Ah oui, oui, même ouais. Le terre-plein, oui. La route aussi, la circulaire, tout.
D'accord. Et ce, jusqu'à la salle, bah oui, du coup, avec la salle, voilà, on récupère.
Tout l'espace qui, en fait, appartenait à la communauté de communes de la Basse-Autonne.
Pour les équipes techniques, ça fait des périmètres supplémentaires.
Ça fait des périmètres supplémentaires et on aura la réunion de la CLECT sur tout ça.
Ouais, mais après, le problème, c'est que les gars, ils ont une capacité, même avec les compensations, ça augmente pas le nombre de personnes, du coup, ça risque d'être un peu plus difficile à gérer. Hein.
Non, parce que,
non, ça passe.
Non, parce que on récupère ça, ouais. Et on perd la ZAC.
D'accord.
Ah, c'est, oui, c'est plus. Ouais. Donc, et la ZAC était un petit peu plus contraignante à faire.
D'accord.
Parce qu'elle est déjà plus compliquée. Voilà, donc l'un dans l'autre, on s'en fout.
Ok.
Bon, voilà.
Alors, que nous dit le protocole de particulier ? Ben, il retrace ce que vient de dire Laurence. À un moment donné, il nous dit quand même que si on met des arbres qui dépassent en taille, je voyais ça tout à l'heure. Alors, il rappelle évidemment la ligne très haute tension. Et on remet des arbres. Et évidemment, il ne faut pas que nos arbres dépassent une certaine hauteur. S'engage à remplanter des arbres compatibles avec le gabarit de l'ouvrage, à savoir 7 mètres de hauteur maximum en zone 3, 11 mètres de hauteur maximum en zone 4, aucune plantation en zone 1 et 2. Voilà. Et évidemment, l'article 3, qui est l'article pour nous clé, c'est l'engagement financier de RTE à payer les 8304,24 €. Avez-vous des questions sur ce sujet? Je rappelle que, enfin, par exemple, Clos Saint-Corneille, les deux arbres qui y étaient, là, j'ai des photos, mais enfin, faut pas les projeter. Mais de toute façon, RTE les avait taillés pour que, justement, ils soient dessous. Ça ressemblait à un morceau de bois avec 3-4 morceaux de bois dessus, quoi. Donc, c'était pas du tout esthétique.
Mais la RTE, en fait, intervenait... En réalité, ils interviennent une fois par an et aujourd'hui, sur ces arbres-là, ils interviennent au moins deux fois pour toujours respecter la distance de travail, de sécurité entre la ligne et les branches qui devaient couper. Donc aujourd'hui, on est au maxi. Si vous, ceux qui connaissent bien le coin, pouvez voir que tous ces arbres-là, ils étaient beaucoup plus petits que tous les autres platanes qui sont sur la ligne.
D'accord.
Donc, ah oui, ça se voyait nettement.
C'est des arbres qui végétaient en fait.
Non, pas qu'il fait gêner, mais on taillait vraiment sévèrement pour être sûr.
Et la taille,
il pouvait plus suffire.
Non, parce qu'au bout d'un certain moment, ben, l'arbre, comme, il continue, même, il continue quand même à grandir, même si tu coupes des branches. Voilà. Et donc, ils étaient à la limite des zones de travail réglementaires.
Donc, ce que tu dis, en fait, on les a gardés le plus longtemps qu'on pouvait, au fond, si on voit un
aujourd'hui, oui. Oui, puis ayant passé le test, parce que nous, on est oublié, par exemple, au boulot. Monsieur Leblanc a dû le passer aussi, non ? L'AIRP ? L'AIRP ?
Non,
c'est ça. Ah ben, c'est un examen qui est obligatoire maintenant pour tous ceux qui travaillent avec
à
des.
Proximité.
À proximité. Donc, nous aussi, que ce soit maître d'œuvre, maître d'ouvrage, tout le monde est obligé de l'avoir. Et il y a bien des distances qui sont réglementées et voilà, on ne peut pas dépasser.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là, commentaires ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Le deuxième point concerne l'espace d'Agobert. Alors, nous avons signé une convention avec l'espace d'Agobert, qu'on a repris d'ailleurs de la convention qui était avec la communauté de communes, qui a été signée entre le collège d'Aramon et le communauté de communes de la Basse-Automne, quasiment mot pour mot. Après avoir rencontré le principal, en fait, il y a un article où il était marqué, c'est l'article 7. La commune déclare mettre à la disposition du collège l'espace d'Agobert et l'ensemble de ses installations à titre gracieux. Le collège s'engage à mettre gracieusement deux agents à la disposition de la commune pour installer et enlever les fauteuils de spectacle, les chaises et dalles de moquette lorsque la manifestation est à l'initiative du collège. Donc ça, ça avait été repris de la convention antérieure. Et en fait, après avoir rencontré M. Calandini, qui a des problèmes de personnel, il a demandé une petite modification, mais qui ne change rien quant au fond, qui ouvre plutôt sur plus de liberté. Et l'article, est, si vous l'acceptez et acceptez cette modification, serait libellé comme suit. La commune déclare mettre à la disposition du collège l'espace d'Agobert et l'ensemble de ses installations à titre gracieux. Le collège s'engage à prendre à sa charge l'installation et l'enlèvement des fauteuils de spectacle, des chaises et dalles de moquette lorsque la manifestation est à l'initiative du collège. Voilà. C'est la modification qu'il y a dans la convention. Convention qui a été votée hier par le collège, d'ailleurs. Est-ce que, voilà, question sur ce sujet ou pas ? Non ? Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tu t'abstiens ? Cécile s'abstient, donc adopté à 20 voix et une abstention. Sujet suivant, donc le poste de police. Alors, en fait, on avait dans l'idée de transférer le poste de police depuis l'endroit où il se trouve, où il est un peu éloigné de la mairie, je crois que c'est pas une idée nouvelle en fait, hein. De le transférer dans le petit bâtiment qui est là, qui aujourd'hui sert de bâtiment de stockage. Hein. On peut peut-être le plan, oui, on voit le bâtiment, bon, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, dans ce petit bâtiment là, d'accord. Il y a d'ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, il n'y était plus en 2014. Bon. En tout cas, il y avait l'idée de remettre le poste de police municipale ici. Bien sûr, ça demandait des aménagements, parce qu'un poste de police, on ne le met pas comme ça. Aujourd'hui, il y a notamment, il peut y avoir des choses qui doivent être protégées dans des coffres, etc. Donc, il faut remettre tout ça en place. Et puis, il y avait un aménagement qui était prévu parce qu'au final, on s'est rendu compte que le bâtiment ne pouvait pas rester comme ça. Il n'était pas assez solide. Donc, il fallait en gros le détruire et le reconstruire. Donc, il y a d'ailleurs eu des plans qui ont été faits. On peut les montrer, c'est dans les pages suivantes. Voilà. On va repasser à notre, la page suivante peut-être. Voilà. Et puis encore la page suivante. Bon. Il y a même une dernière page, mais bon, voilà. Le bâtiment avait été vu comme ça. Donc, on comptait bien aller dans cette direction. Et évidemment, sur ce terrain-là, c'est un terrain un peu compliqué ici d'ailleurs. J'avais pas découvert toute la complexité du terrain. En fait, avec la SHLM de l'Oise, on est propriétaire juste des emprises des bâtiments. À l'extérieur, c'est encore la propriété de l'hospice qui n'existe plus, mais du point de vue juridique, il faut faire un transfert. Ça, c'est...
Le point de l'hospice, la propriété de la commune. Si, c'est le point de... Parce que ça appartient au bureau d'aide sociale de la commune.
Oui, mais du point de vue, d'ailleurs du point de vue juridique, lorsque la SHLM a dû faire les travaux ici, il y a dû y avoir un acte de notoriété acquisitive qui a été fait. Et cet acte de notoriété acquisitive, il n'a pas été fait sur l'ensemble du terrain, mais uniquement sur l'emprise de la mairie et sur l'emprise de ce petit bâtiment-là. Par rapport à la SHLM.
Et le terrain... Et à la commune.
Ben, bon. C'est, en tout cas, juridiquement, là, c'est un peu compliqué.
C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, l'hospice voulait vendre la maison de retraite à la commune, mais vous ne pouvez pas le vendre, étant vu qu'on était déjà propriétaire.
Non, le cadastre. Hein.
Et sur le cadastre, c'est marqué hospice. Hein.
Oui, mais le cadastre, sur le.
Les modifications n'ont pas été enregistrées.
N'ont pas été faites. Ah. Et ça appartient, le terrain appartient à la commune.
Bon.
Et
alors,
on avait remis ça avec le notaire, etc. Et de toute façon, en plus, les ayant payé pendant plus de 40 ans les impôts fonciers, nous en devenions automatiquement propriétaires.
C'est un bien sans maître.
C'est absolument.
Alors.
Ça, c'est la deuxième partie, mais nous en étions déjà propriétaires. C'est une affaire compliquée que
voilà.
Je voulais faire.
Et en fait, vous dites, au bout de 40 ans, effectivement, c'est même 30 ans, je crois, mais je ne me battrai pas sur ça. Donc, on en est au propriétaire, mais en gros, il faut faire valider la chose par un notaire.
Oui, mais le notaire avait déjà interrogé Crillon du Nord, et le notaire disait que c'était la commune qui en était déjà propriétaire.
Bon, enfin, aujourd'hui...
Ça a fait grand débat, cette affaire, puisque... Le conseil municipal avait même donné à l'hospice la maison de retraite. Mais le conseil municipal, ça n'est pas le bureau d'aide sociale. Et le conseil municipal ne pouvait pas donner la maison, les murs de la maison de retraite. Ce qui fait que cette donation n'était pas valable. Et que, en fait, c'est la commune qui en est propriétaire par l'intermédiaire du bureau d'aide.
Enfin, aujourd'hui, il reste à faire valider tout ça, une dernière démarche par un notaire, hein, parce qu'il y en a une partie qui a été faite, ça reste à valider. Mais ce n'est pas là l'essentiel, en fait, de l'affaire. Là, effectivement, dans le bâtiment, on voulait le ravancer un peu, donc on avait un problème de parcelle, parce qu'on débordait sur la parcelle qui avait fait l'objet d'un acte notarié. Bon, toujours est-il que le problème essentiel n'est pas là, c'est qu'on a fait faire tout ça, ça allait bien, et puis on était sur des estimations de coûts de l'ordre de, on va dire, 150 000 euros, tout compris, hein, c'est quand même un petit bâtiment. Donc on a demandé un chiffrage à la SHLM de l'Oise, et là, le chiffrage est arrivé, vous pouvez le projeter, monsieur Leblanc ?
Bien sûr.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Alors là, c'est un peu difficile. Pardon, on peut faire un zoom. Mais je sais pas. En tout cas, le coût qui en ressort, pardon, Le coût global qui en ressort est de 285 963 euros.
Je disais 300 000, t'es pas bon.
Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, 70 mètres carrés, même pas.
C'est pas un peu abusé.
Non, mais oui, enfin, je vais vous dire. Pardon, il me semble que je l'ai, le métrage exact. 30 mètres carrés.
Il n'y a pas d'obligation de passer par là aussi ?
Bah si. Ah ouais ? Si. Si, si. Si, on a obligation de passer par eux.
Ah d'accord.
Parce qu'on est en bail à construction, c'est comme ça.
Bail à la construction.
Bail à la construction.
J'ai un petit peu la situation.
On est en bail à la construction, mais on est toujours propriétaire du terrain, nous. Pour un bail à la construction.
Oui. Ah non, oui. On parle pas moins de la durée du bail, tous les droits, les mobiliers sont transférés.
Est-ce que ça fait partie du bail à la construction ? Je ne pense pas.
On va revoir ça après. Alors, en général, les droits liés aux trucs sont transférés en même temps que on transfère l'usage pendant la durée du bail.
La preuve, c'est que les terrains ne sont pas dans le bail de construction.
C'est pour revoir ça, effectivement.
Oui, ce morceau-là est dans le bail à construction, M. Fleury. Oui, oui, il est dans le bail à construction. D'où notre problème. Parce que là, en clair, on leur avait dit, bon, on veut bien faire un prêt, mais un prêt qui dure 5 ans, hein, parce que, voilà. Donc la réponse, ça a été, bah, juridiquement, non. Il faut aller jusqu'en 2041, comme la mairie. Voilà, et puis on nous fait payer des frais de gestion, presque 30 000 euros. La charge, évidemment, des emprunts. De la PGR aussi, PGR, provision pour grosses réparations. Enfin, c'est la totale, quoi. Donc, le total maximum, 285 963 euros. Ça me semble vraiment pas raisonnable de partir sur cette situation.
C'est le prix d'une maison.
Alors,
c'est cher
le mètre carré.
C'est le prix
on prendrait
maison.
Que. Voilà.
Et ça, c'est juste la construction sans les aménagements que nous aurons à faire à l'intérieur.
C'est la construction avec les cloisons à l'intérieur, etc.
Oui,
avec
les portes actuelles, s'il était remis. Il faut vraiment les couler avant le budget.
Ouais, là, non, ça. Enfin, là, Francis.
Il y a des normes de sécurité à respecter, pour, comme disait.
Oui, alors bon, on était parti, on n'imaginait pas du tout ce montant-là, que ça prendrait cette ampleur-là. Donc aujourd'hui, enfin, je me suis permis de téléphoner avant le conseil, je leur ai dit stand-by, on arrête là. Là, on m'a dit, on va vous faire une nouvelle proposition, on verra bien. Mais il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à d'autres possibilités pour transférer le poste de police.
C'est la solution.
Je pense que c'était une bonne idée. Il y a toujours, mais bon, le problème de la salle qui appartient à l'évêché.
L'évêché.
Ah oui, la salle de café. Il y a la salle qui appartient à l'évêché. Alors, la discussion est compliquée.
Mais là, c'est pareil, la salle de l'évêché, il faut la raser.
C'est pas
la
même explication.
Mais du coup, le terrain. Ah oui, le terrain. Là, on est en dehors de la.
Pour le terrain, nous revient, on est libre de.
Ça se prend
de
tout.
Bon, il y a un autre terrain à côté, c'est.
La petite maison.
On a la petite maison qui est là aussi, qui nous appartient.
Oui.
Oui,
tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites ?
On peut construire.
C'est une autre possibilité. Il y avait aussi la petite maison qui est derrière, parce que fonctionnellement, elle est bien. Il y a une entrée par la rue Gustave Bouffé, et ils sont directement dans le parc de la mairie. Bon, aujourd'hui, elle est occupée, comme chacun sait, par une personne. J'avoue que moi, je n'ai pas l'historique de tout ça. Enfin, comment la personne est arrivée là. Mais bon. C'est même antérieur à.
Ah,
ouais.
Oui, parce qu'on ne peut pas proposer un logement pour cette dame.
Les rapports de.
Au moins, je ne peux pas proposer un logement.
C'est quand vous avez construit un logement
de retraite. Elle est arrivée là quand la maison de retraite. Elle habitait dans la maison qui était à la place de la maison de retraite. Elle habitait avec Luis Carrasco à l'époque, en dessous, je me souviens. Et donc, elle a été. On lui a mis un logement là. En 70.
Oh,
c'est l'année de mon mariage, je m'en
souviens. Ah oui, ils l'ont déplacé de là-bas à ici.
C'est-à-dire que oui, elle était née de là, là.
Ouais. Ouais. En provisoire.
Ah non.
Ah oui, sans doute.
Elle ne paye pas de siècle.
Non, mais tout était comme ça. Parce que moi, ça me flingue. Tu vois ça, ça me flingue.
Depuis 1970
Non, pas 70, parce qu'avant, elle habitait dans cette maison où il y avait une maison bourgeoise avec un maison. Et si. Qui est la banquerie?
À la féculerie.
Hein?
À la féculerie.
À la féculerie.
La grande maison qui était rue Saint-Nicolas. EDF. C'était pas la féculerie? C'est les gens de la féculerie qui étaient logés là-bas.
Ah ouais, mais ils
appartenaient à EDF. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas le reloger?
Bon, il y a une autre solution aussi, c'est peut-être la petite maison qui est sur la place du marché. Bon, aujourd'hui, elle est en vente, elle n'a pas trouvé acquéreur. Ça pourrait aussi être une position centrale pour un poste de police.
Est-ce qu'il faut que ce soit proche des gens, que ce soit proche du centre?
Voilà.
Là, c'est l'idéal.
Tu veux pas centrer?
Là, c'est bien.
Donc, on va réfléchir à tout ça. J'avoue qu'on n'avait pas forcément pensé à l'affaire du presbytère que vous avez évoquée.
Mais il est vrai que bon, le jardin du presbytère, c'est beau.
Ouais, c'est malheureux.
Bon, oui.
Et puis ils sont pas visibles, ils sont un peu retirés.
C'est ma proposition, ma contre-proposition en même temps. Hein,
C'est une possibilité, oui.
C'est une possibilité, bon, ça ne mange pas beaucoup non plus.
Sur le bout du jardin, ça ne mangerait pas beaucoup.
Hein. Mais il est vrai que là-bas, ce qui est bien là-bas, c'est aussi qu'il y a des places de parking.
Ah oui, tout à fait, garer la voiture.
Pour garer, pour.
C'est pas mal en fait.
C'est assez central.
Je vous propose de ne pas trancher aujourd'hui, évidemment. Par contre, je vous demande de comprendre qu'on ne s'attendait pas à ce prix-là et que devant le prix, ça ne nous semble pas raisonnable de poursuivre dans cette voie-là.
Non, mais il faut qu'ils réfléchissent, là, c'est pas possible.
Alors, la SAHLM de l'Oise m'a dit qu'elle. J'aurais téléphoné, je leur ai dit on arrête tout, parce qu'ils m'ont dit on va réfléchir, on va vous reproposer quelque chose.
Qu'ils réfléchissent bien.
J'attends, mais bon.
Ils sont à notre prix, ils n'y arriveront pas.
Il va falloir les justifier pour qu'ils passent 300 000 ensemble.
Quand on donne un prix,
oui.
Voilà. Parce que nous,
on était arrivé à 110 000 euros de coûts de travaux, parce qu'évidemment, on est dans une zone où l'architecte des bâtiments de France a un certain pouvoir. Donc il fallait, comme vous avez vu, il fallait mettre de la pierre, il fallait faire un certain nombre de choses. Donc ça, oui, on arrivait à 110 000 euros. Bon, après, c'était aussi une mise en valeur, quelque part, de l'ensemble, mais pas à ce coup-là, pas à 300 000 euros, quoi. Enfin, 285 000.
Et est-ce que si vous faisiez faire, par exemple, un devis par une autre société que vous leur présentiez, il y aurait un moyen de pression? Parce que là, ils nous prennent quand même pour des cons, c'est une expression. Mais...
Bah, ils sont dans leur mode de fonctionnement habituel, avec des frais fixes, des frais de gestion importants, des... Voilà. Ils sont dans leur mode de fonctionnement habituel, je pense.
Ils savent qu'on
sauf qu'il faudra qu'on paye aussi un loyer pour ce bâtiment.
Oui.
Les 283 000 euros, c'était sous forme de loyer jusqu'en 2041.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est quand même 283
000
euros.
C'est pas donné.
Bon.
Aujourd'hui, 2041, moi, je fais du Dubai dans l'industrie, on est à 2,80, on n'est pas plus. Hein.
Mais bon, voilà. Donc on va reprendre la réflexion sur la manière dont on a parlé là. Il faudra sans doute réunir la commission travaux à un moment donné sur tout ça, pour avancer quand même, si possible, assez rapidement. Voilà, c'était le dernier point à l'ordre du jour. Quelques informations. Première information. Oui.
Il y avait de l'argent qui devait nous revenir.
Oui, alors, oui, pardon. Alors, je reviens sur le poste de police. Au départ, on avait dit on va utiliser une partie de la PGR, provision pour grosses réparations, de la mairie. Parce qu'on a quand même un paquet d'argent. Sauf qu'à la fin, ils nous ont dit que c'était non, c'est illégal. Bon, parce qu'on construit un bâtiment, c'est illégal. Bon.
C'est pas l'amélioration, c'est de la construction.
C'est de la construction.
Ah, le fait de l'écrouler, de le reconstruire, c'est...
Voilà. Mais bon.
Pour nous isoler le grenier.
Voilà. Donc, voilà le problème de la provision pour grosses réparations.
Si on avec ça, on a pas eu le portail, il a quand même été... Ils ont pris là-dessus.
Le portail a été amélioré. Vous avez vu qu'il a été motorisé, le portail.
Motorisé, oui.
Bon, donc il a été amélioré. Bon, c'est quelque chose...
C'est une nécessité, hein.
Oui, oui. Oui, oui. Bon, ça faisait un peu de...
Mais...
Pour les dames, le matin, d'ouvrir et le soir, à fermer.
On va travailler jusqu'à 11h.
Et il y a des hommes qui avaient du mal des fois à débloquer.
Bon, c'est fait, bien fait, je pense. On a regardé ça de près, hein, bien fait. Donc, et ça, ça a été payé sur la PGR de la mairie, effectivement. Donc, il n'y a pas d'argent qui soit sorti du, directement du budget communal. Même si, d'une façon ou d'une autre, il en est sorti quand même.
Pas eu de coût supplémentaire.
Et pas eu de coût supplémentaire. Donc je reviens sur les informations. Donc première information, le 14 mars, il y aura une réunion publique aux salles Saint-Nicolas à Compiègne. C'est la première réunion publique sur le PLUIH. Donc vous recevrez de toute façon une invitation individuelle, mais déjà je vous le signale, elle est à 20h45 la réunion. Hein, donc sur le PLUIH aux salles Saint-Nicolas, c'est la première réunion publique. Sachant qu'on en est toujours qu'au PADD, hein. Donc vous attendez pas à... Mais c'est quand même bien d'être présent, évidemment. Et puis, on va faire de la pub autour de ça pour que les habitants de Verberie qui sont intéressés puissent venir. Deuxième point, même si c'est pas quelque chose d'important, on est quand même tous attachés, je pense, au château d'Aramont. Vous avez vu que lors de la dernier coup de vent important, il y a un des paratonnerres qui avait plié et qui est tombé. Donc il y a une intervention technique avec d'ailleurs une nacelle particulière de 40 mètres, je crois. Et donc on a retiré en fait ce paratonnerre-là et même le paratonnerre qui était derrière. Parce qu'on a dit, je ne pense pas que ça change sur le château, que ça change considérablement l'allure du château. D'ailleurs, certains ne l'avaient pas vu. Voilà. Mais je tiens quand même à le signaler. Dans quelques jours, on va avoir les travaux de l'école maternelle qui vont reprendre. C'est la phase finale, là, pendant les congés. Et ça sera terminé en fin des congés de février.
Et le relais d'assistante maternelle qui arrive derrière.
Alors, à l'école maternelle, nous allons donc avoir le relais d'assistante maternelle qui va déménager de l'endroit où se trouvait la communauté de communes de la Basse-Automne pour arriver donc dans une des salles de l'école maternelle. Et nous allons également avoir le relais, le réseau d'aide. Aide-moi, Laurent.
RASED.
Spécialisé aux enfants en difficulté.
Voilà, spécialisé aux enfants en difficulté. Je vous l'ai donné, donc RASED, qui va arriver à l'école des remparts primaire. Voilà pour ces deux points-là, ce qui fait qu'au deuxième étage du château, nous n'aurons absolument plus rien.
Il est toujours au château. Il y a une partie au château et une partie au-dessus de la bibliothèque.
Donc tout ça va être transféré là-bas. Ils ont une salle, une unicité de lieu. Ils sont dans le domaine de l'éducation nationale. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et dernier point en termes d'information, c'est pas tellement une information, ce sont des remerciements. Je tiens vraiment à remercier les employés municipaux des services techniques pour leur disponibilité et leur efficacité durant la période neigeuse. Je crois que le travail qui a été fait a été vraiment un travail parfaitement conduit. À 4, ils étaient vraiment extrêmement disponibles, présents à 5 heures du matin. Voilà, des 3 jours où il a fallu être présent et je crois 6 heures du matin pour un autre jour. Avec, voilà. Donc tout ça s'est quand même très bien passé et donc les rues ont été rapidement dégagées. Donc merci beaucoup à eux. Voilà, bravo. Monsieur Leblanc, vous ferez notre relais. Tout à fait. Voilà, je vais maintenant clôturer le conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions?
Tu veux parler d'expérimentation, le sixième?
Ah, oui, attends, juste une information supplémentaire. J'ai laissé l'adjoint aux affaires scolaires la donner, et puis après, Nicolas.
C'est juste une information, donc en fait on a été contacté par, donc nous on ne sera pas forcément acteur, mais on sera partenaire, on va dire, on a été contacté par l'Éducation nationale qui souhaitait faire une expérimentation, donc, et d'envoyer une classe de CM2 tout le mois de juin au collège, en fait, pour faciliter
la transition
pour l'année prochaine. Donc c'est la classe de Madame Graff, Madame Graff a accepté de faire cette expérimentation, et donc ils seront présents au collège du 1er juin au 22 juin, et donc on a des réunions qui sont programmées pour justement caler cette organisation-là, et ils vont se coller le plus possible à la vie du collège.
Ils seront accompagnés de leur profil, de leur
Ils seront accompagnés de leur instit, évidemment, mais ils iront faire leur cours dans le collège. Voilà. Donc, ça va être une belle expérience. Et puis, je vous tiendrai au courant au fil de l'eau, puisque là, c'est le début, ça a été validé, il faudra que ça passe en conseil municipal.
Bon, évidemment, on doit régler un certain nombre de points administratifs, responsabilités, etc. C'est en cours. Et c'est donc M. Laurent Baumler, adjoint aux affaires scolaires, qui est en charge de cette affaire, tout comme le déménagement du RAM, enfin la phase élue, bien sûr, il y a une autre phase plus technique, et le RAZ. Voilà, Laurent, tu avais une question.
Nicolas,
excuse-moi.
C'est différent des sujets qu'on a évoqués ce soir, mais comme vous siégez à l'Arc, j'avais une question, en fait, j'ai entendu parler d'une taxe liée aux inondations, qui s'est appliquée par les communautés de communes. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc je préfère demander aux personnes qui sont directement concernées.
Oui, alors, vous savez qu'au 1er janvier 2018, en fait, il y a une compétence qui s'appelle GEMAPI, gestion des eaux et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui a été transférée aux intercommunalités, communautés de communes et communautés d'agglomération. C'était une compétence qui avant n'existait pas en tant que telle. La compétence, elle était répartie entre l'État, un petit peu les collectivités, mais locales, mais surtout l'État. Bon, l'État a voulu transférer cette charge-là aux collectivités locales, et notamment dans la loi Nautré au 1er janvier 2018 aux intercommunalités. Et l'État a dit, eh bien, en échange, vous pouvez prélever, puisqu'on vous met une charge nouvelle, une taxe, impôt, baptisée taxe GEMAPI, jusqu'à 40 euros par habitant. Ça, c'est ce que dit la loi. Voilà. Pour financer une charge qui n'existait pas avant. Hein, voilà. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, l'agglomération de la région de Compiègne, mais comme toutes les autres agglomérations sur la vallée de l'Oise,
c'est une question d'ordre général, je pose.
Ont pris une délibération pour prélever notamment cette taxe pour la partie GEMAPI, justement, où il y a en fait deux financements. Il y a un financement qui va vers GEMA, gestion des milieux aquatiques, et un financement qui va vers la prévention des inondations. Mais tout ça est réparti en une seule somme. L'agglomération a voté une somme de 464 000 euros de tête, j'espère que je ne me trompe pas, à prélever sur l'ensemble de l'agglomération, ce qui doit représenter entre 5 et 10 euros par habitant, sachant que c'est toujours un peu compliqué parce que c'est... Enfin, nous, on vote la somme globale, et après, c'est la DGFiP qui répartit sur tous les impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières,
bâties,
non bâties, mais d'accord. également CFE des entreprises, c'est réparti sur ces quatre taxes-là. Voilà, donc les entreprises paient aussi.
Oui, parce que j'avais pas, enfin, j'ai vu des choses là-dessus, mais je n'avais pas bien compris, donc je me suis dit je poserais la question.
Non, mais tu as bien fait, c'est pas très cool, c'est pas très développé.
Alors, en fait. Tout ça est en train de prendre de l'ampleur, faut pas se le cacher derrière, hein. Tout est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui.
Et il y aura un lien avec le PPRI, quelque chose, non? Ou c'est vraiment
oui,
le... parce qu'effectivement...
Oui, et oui, alors, oui, Monsieur Floury a raison, hein. On voit le nombre de réglementations, de lois, de contraintes supplémentaires, d'exigences, dans ce domaine-là, qui en ce moment est en train d'exploser.
Bah, surtout avec les faits récents. Et en plus,
alors, attends, il y a deux choses. Il y a l'AGEMA, d'un côté, donc il y a toutes les affaires de zones humides, de cycles, pas courts, mais longs de l'eau, pour avoir de l'eau potable qu'il ne faut pas trop traiter, etc., avant qu'elle soit potable. Donc il y a tout cet aspect-là, et cet aspect-là, lui aussi, est en train de gonfler. Aujourd'hui, sur les zones humides, si j'en profite pour en parler un petit peu, mais en gros, j'exagère un peu et je caricature, mais il vaut mieux aller se pointer à la banque et dérober l'argent de la banque que de remblayer une zone humide. Je caricature un peu, mais...
C'est un peu ça.
Hein, c'est un peu ça. Et d'un autre côté, il y a la prévention des inondations avec tout ce qu'on a connu là, cette année, l'an dernier, où là, c'est pareil, il y a de plus en plus d'exigences. Alors, c'est évidemment aussi lié quelque part au PPRI. Hein.
Oui, bien sûr.
Hein. PPRI qui est toujours en projet, qui fait l'objet d'un audit en ce moment.
Parce que quelque part, pour les gens qui vont être concernés par le PPRI, ça fait une double peine. Ils vont avoir un impôt et en plus, ils seront verrouillés sur leur propriété.
Alors la taxe GEMAPI, elle sera donc payée par tous les habitants de l'agglo, hein, qu'ils soient en zone inondable ou pas en zone inondable.
Ce sera même sur le territoire, enfin, d'une façon générale.
Pour l'instant, ce sont les intercommunalités qui votent ou qui votent pas. Donc il y a des intercommunalités qui ne votent pas. Pour l'instant, dans la carte que j'ai vue l'autre jour, l'agglo de Beauvais n'a pas voté de de taxe GEMAPI. Hein.
Si. Non, ils ont une charge supplémentaire, donc à un moment, il va falloir qu'ils...
Parce qu'ils sont
ils ont...
Avec l'aéroport, peut-être.
Oui, et puis ils n'ont pas beaucoup de... Enfin, le terrain, si c'est sûr, ça n'a quand même pas l'ampleur de l'Oise et des problèmes provoqués sur l'Oise. Et des équipements qu'il faut mettre en place.
Il y a des dégâts sur le terrain, il y a des dégâts.
Alors, je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse.
Ça répond à ma question, parce que, si tu veux, moi, j'ai entendu parler de ça. Alors, évidemment, ça part dans tous les sens. Et je voulais avoir un petit peu l'explication de ces choses-là. Parce que... Alors,
regardez sur vos feuilles d'impôt, la ligne GEMAPI figurait déjà.
D'accord. Et elle était valorisée
ou... Non, elle était à zéro.
Elle était à zéro, d'accord.
Elle était à zéro. Mais elle figurait déjà la ligne. Elle était toute prête.
Ils sont visionnaires, les mecs.
C'est un peu délicat.
C'est habitation. Mais c'est ce que je pense. Ça doit être habitation.
Mais ça doit être
tous les habitants. Voilà. Je disais que tous les habitants paieront. Donc c'est.
Ah oui.
Je l'aurai pas sur le foncier, je l'aurai sur la taxe d'habitation
partout.
Ah mais vous l'aurez sur le foncier, sur la taxe d'habitation, selon une clé de répartition qui est mise en place par les finances publiques. Voilà. Bien. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà. La séance est terminée. On fait court ce soir.
Est-ce qu'il y a des questions à la salle ?